comme vient de le dire notre collègue, mes recherches donc s'inscrivent, du moins prennent pour objet d'étude le discours médiatique et plongent leurs racines dans plusieurs théories de recherche, à savoir prioritairement la linguistique textuelle, l'analyse de discours et l'analyse de données textuelles assistées par informatique. Donc dans ce cadre, dans cette réunion interdisciplinaire, je vais tout de suite souligner une chose qui me semble très importante, à savoir que j'entends par analyse de discours une discipline qui ne s'intéresse pas au qu'est-ce qui est dit, mais au comment c'est dit et pourquoi c'est dit comme ça. Vraiment pour schématiser, mais ça me semble important pour la suite. Donc pour marquer la perspective de mes travaux, j'utilise donc le syntagme d'exploration textuelle du discours qui vise à pointer une pratique d'analyse à dimension herméneutique, une pratique qui se fonde donc sur un mouvement d'articulation entre le texte et son réseau de relations qui forme ce contexte, donc allant du cotexte au péritexte en passant par l'interdiscours, par l'intertexte. Et le petit terme d'exploration insiste pour sa part sur le rôle central des outils informatiques et statistiques dans ma pratique d'analyse. Alors, ce recours aux outils informatiques ne se justifie pas tant par rapport au volume des corpus traités que par véritablement le pouvoir heuristique des outils informatiques qui font émerger du corpus lui-même ses propres sciences textuelles, discursives et linguistiques. Et par ailleurs, si je recours aux outils informatiques, c'est parce qu'ils autorisent une meilleure prise en compte de la matérialité du texte, de la pluralité de ses dimensions. Alors je peux citer à titre d'exemple le cas de l'exploration morphosyntaxique de grands ensembles de données qui n'étaient guère praticables à l'heure de l'imprimé. Selon cette position est sous-tendue par l'idée que le texte ne s'arrête pas à sa surface graphique. D'accord ? Donc à partir de ce cadre, très rapidement posé, mes recherches s'articulent autour de trois axes majeurs. Donc le premier est relatif à la constitution d'une base numérique d'un quotidien régional publié sous la Troisième République, quotidien qui s'appelle Le Petit Contrôle. Donc ce projet a été initié en 2004 et partait de deux constats. Le premier étant la nécessité pour la communauté des sciences humaines de disposer de grands ensembles de données textuelles qui pouvaient figurer un creuset interdisciplinaire de première ordre. Alors je pense à l'analyse de discours, à ses liens avec l'histoire de la formation des opinions. On peut aussi évoquer le cas des géographes ou des sociologues, voilà, qui pouvaient trouver un intérêt dans cette ressource. Le deuxième constat qui a motivé l'émergence de ce projet, c'était que la numérisation de ce type de presse dite ancienne était l'occasion d'expérimenter une chaîne d'acquisition de données finement établies et portatives qui impliquait de soulever certains obstacles techniques, mais aussi conceptuels. Hein, on pourra en discuter après. Ici, c'est l'état médiocre de ces documents, hein, comme vous pouvez le percevoir ici, et surtout la typographie qui est propre à cette presse dite ancienne, hein, donc, si je parle du 19e, qui contrarie les résultats de sérisation et qui, par suite, implique toute une chaîne de traitement très lourde de correction. Donc, dans notre laboratoire, puisqu'il s'agit ici d'un projet d'équipe, hein, et développer un outil de correction semi-automatique qui permet donc d'alterner des phases de dialogue avec l'expert, on va dire, philologue. Ouais. Donc je ne vais pas insister spécialement maintenant sur ces questions techniques, on pourra y revenir pendant la table ronde sur la numérisation. Je vais juste insister sur le fait que voilà, aujourd'hui, on est à peu près à 10 millions de mots corrigés dans cette base numérique, qu'il existe un site du Petit Comptoir qui est encore dans une phase, on va dire, bêta, qui va se développer et permettre maintenant le téléchargement des données au format XML TEI, et surtout qu'il existe maintenant une communauté, on va dire, de chercheurs interdisciplinaires qui travaillent sur ce fonds et qui se réuniront les 10 et 11 mai à Besançon. Voilà. Alors, les deux autres axes de mes travaux que je voudrais vous présenter sont cette fois relatifs à l'exploration même de cette base. Alors, le deuxième axe de mes recherches regroupe ainsi toute une série d'analyses sur l'évolution du traitement de l'information journalistique. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que la période de la Troisième République, les dernières années, donc à partir de 1880 jusqu'au premier quart du XXe, représente, selon les historiens de la presse, une période de transition entre, d'une part, un journalisme d'opinion et un journalisme d'information qui serait tourné vers le droit. Alors, c'est pour mettre à l'épreuve cette perspective que je développe cette série en plus d'analyse. Alors, en premier lieu, j'examine de façon systématique la façon dont l'information est hiérarchisée et dans quelle mesure on observe un découpage du monde, du quotidien qui évolue et qui véhicule une forte identité, comme l'ont montré Maurice Mouliot et Jean-François Tétu. Parallèlement, je mène une série d'études sur les genres journalistiques, autrement dit ces catégories qui déterminent la production et la réception de l'information. Et pour ce faire, j'utilise les outils informatiques dans une perspective inductive pour prendre la mesure des faisceaux de traits énonciatifs, stylistiques et linguistiques qui caractérisent ces genres. Et pour ce faire, je développe des études qui croisent les critères lexicothématiques et morphosyntaxiques. Et enfin, j'étudie forcément la façon dont le journaliste met en scène des événements qui, énonciatifs ou non, renvoient toujours au discours d'autrui. Donc, une classe d'études sur le discours à propos. Alors, je vais rapidement illustrer mon propos en présentant certains résultats d'un examen systématique du discours rapporté dans un sous-corpus de dépêches de 1883 à 1903. Alors, on doit voir sur ces graphiques un peu déformés là, la distribution des formes de discours rapporté durant cette période. On voit ici que le discours indirect tend à s'imposer dans la seconde partie du corpus, donc à partir ici dans la tranche 1903. Bon, si on observe maintenant non pas cette tendance sourde, mais la façon dont les verbes se distribuent, on voit que progressivement, les verbes additionnés, marqués, tels que prétendre, tendent à être abandonnés à partir de 1887. Et tout un autre faisceau d'indices quantitatifs converge avec ce premier élément pour pointer une nette évolution des pratiques journalistiques à partir donc de 1897. Alors, je peux citer un autre exemple très rapidement. Cette macro-catégorie que vous aviez ici tout à l'heure, verte en 1883, qui réduit considérablement en 1903. Bon, en l'occurrence, ici, cette macro-catégorie regroupe toutes les formes par lesquelles l'origine du dire est effacée et en même temps le dire rapporté est mis à distance grâce à des formes comme il paraît que, on dit que ou encore le bruit pour que. Donc ici on voit, si on prend uniquement ce graphique, qu'en effet ces formules du bruit pour tend à disparaître comme il paraît que ou on dit que à partir de 1880. Donc si on a le temps de lire ce pour extrait, on voit bien que ces formules étaient l'indice en fait d'un réseau de correspondants encore peu roué à la temporalité qu'introduit le quotidien et qui donc rapportait l'information sur le mode de la rume, essentiellement. Bon. Alors, je passe très rapidement pour donner une vue globale sur mes recherches. Donc l'axe de recherche 3 concerne cette fois les apports des outils statistiques appliqués à de grands ensembles de données à une analyse du discours qui cherche à accéder au sens et à la dimension rhétorico-stylistique du discours qui très souvent sont supposés, on va dire, hors d'accès d'une approche dite purement quantitative. Bon. En l'occurrence, j'aimerais illustrer de quelle façon les nouvelles fonctionnalités permises notamment par ici le logiciel Astartext nous permettent de développer un parcours de lecture objectivé du texte par lui-même et par suite peuvent alimenter une analyse qui serait à la fois énonciative, sémantique et rhétorico-styliste. Donc, le niveau d'étude sur lequel je souhaite insister ici est celui de la micro-distribution, autrement dit de la co-occurrence généralisée qui a été proposée par Jean-Marie Dupré et qui consiste à examiner tous les réseaux d'attirance et des répulsions que les formes entretiennent entre elles. Donc on dépasse ici le niveau de la seule séquentialité pour véritablement s'intéresser à l'organisation fine du vocabulaire. Alors, comme on a pu l'entendre dans la présentation tout à l'heure, alors que le sens se construit en contexte, lorsqu'on commence à étudier les réseaux de co-occurrence, tel que on peut le faire avec la co-occurrence généralisée, on accède à un premier palier d'accès au contexte, et donc on a affaire ici à un outil qui se révèle puissant pour l'examen des réseaux sémantiques. Alors, ce que vous voyez ici est un planisphère, donc une visualisation AFC prenant la forme d'un planisphère qui est issu d'une matrice où ont été collectées les 1000 premières formes du corpus en ligne et en colonne de façon identique, puis soumise à l'analyse factorielle des correspondances. Donc, les zones que je me suis permis d'entourer correspondent à ce qu'on appelle des pôles isotropiques qui représentent des classes de forte équivalence distributionnelle au sens d'Aris et qui sont constituées sous l'effet conjoint de contraintes à la fois linguistiques et discursives. Pour le corpus considéré, donc la totalité des articles publiés dans le petit comptoir 2883-1903, on obtient 4 pôles qui s'oppose pair à pair sur l'axe 1 et qui se singularise sur les axes 2 et 3. On pourra revenir sur exactement l'organisation de tout ça. Mais faute de temps, là j'insisterai essentiellement sur le pôle 4, donc vous pouvez percevoir de la moitié droite du planisphère. Bon. Ce pôle articule des formes renvoyées aux grands ensembles sociétaux, aux désignants sociopolitiques, aux concepts et à un certain nombre d'adverbes tels qu'indiscutablement. Donc ce sont sur les pistes d'analyse suggérées par ce pôle isotropique qui sont appelées à être développées en objets contextualisés de recherche que je voudrais insister. Alors si on prend le cas de la forme vérité que vous avez dû apercevoir ici comme première entrée, on voit que le retour au texte confirme qu'il s'agit d'un trait caractéristique des articles d'opinion qui émanent de la rédaction. D'accord. Ici, la vérité est martelée au gré de syntagme péremptoire. On retrouve ce fameux indiscutablement et de mise en relief par des phrases présentatives. Donc, il s'agit, comme on comprend à cette lecture, pour les républicains du petit comptoir, de se présenter comme rétablissant une vérité dénaturée et dénoncer l'effet de spoliation lexicale, pour reprendre une expression de Marc-Ange Nau. Alors, justement, s'il est un mot dont le petit comptoir ne cesse de dénoncer des termes de détournement, c'est celui de républicain. Et quand on observe les co-occurrents de ce terme, comme le suggérait un graphique qu'on a vu tout à l'heure, on voit une dichotomie apparaître entre les vrais républicains et les faux républicains. Hein, et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette dichotomie apparaît uniquement à partir de 1883. Alors, dès lors, avec le retour au texte, on peut vérifier qu'en fin de compte, ici, l'intensification, le recours à ce désignant sociopolitique axiologisé s'impose en raison de la radicalisation de la ligne politique du Petit Comptoir en réaction à la politique d'apaisement qui est menée depuis 1892. Donc, par vrai républicain, on entend les anticléricaux et par faux républicains, ou plutôt républicains affonnés, donc il faut bien entendre une dénonciation du ralliement des catholiques à la République. Hein. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le retour au texte nous amène à son tour à examiner la thématique du déguisement qui est convoquée par les radicaux pour désigner et dénoncer justement les cléricaux ralliés. Voilà sur ce sur quoi je voudrais donc insister en conclusion, hein, c'est sur l'apport de ces outils, de ces méthodologies pour une histoire linguistique des concepts tels qu'appelés par Jaguillou, sur la base d'un protocole coopératif entre les sciences du texte, la nature du discours et les sciences d'histoire. Donc, puisque ces outils, véritablement, nous permettent de faire émerger ici des ruptures de sens, des ruptures de... sur le troisième facteur. Alors, et surtout de pouvoir visualiser plus clairement, en fait, de ne pas avoir de nuages de points trop compressés tel qu'on peut l'avoir sur une représentation en deux points. Après, conséquence négative, cette fois, il y a nécessairement une déformation liée à ce. Mais cette représentation géodésique ne reproduit pas les emblèmes, par exemple, de Max Planck. C'est vraiment ici un effort qui est fait. L'idée est la suivante, ici la largeur donc, et la profondeur déterminent, donc axe 1 et axe 2, déterminent une longitude et une distance à l'origine du plan équatorial. Tandis que après, donc, le troisième axe, lui, indique une distance à l'origine de la sphère, d'accord, et une attitude. C'est comme ça qu'on peut après le lire. Et dernier avantage positif, c'est que ici, on peut zoomer donc, sur chaque zone, ici, pour après voir comment s'enchaînent plus finement les items, quelles sont leurs classes distributionnelles. Mais vous avez raison, il y a bien une déformation liée à, forcément à ce planisphère. Dans la pratique, en tout cas, on oscille entre une visualisation sur deux facteurs et ce type de visualisation géodésique. Pas nécessairement, en plus, c'est pas mal.
Merci. Dans le deuxième acte de recherche, vous avez parlé d'un travail sur la mise en forme. Mm-hmm. Est-ce que vous avez utilisé des outils automatiques qui ont permis de...
Alors, pour l'analyse des titres, oui, mais pas pour l'analyse du rubricage. Du moins pour l'instant, parce qu'on a changé notre protocole en fait, de numérisation, et maintenant, en effet, on peut voir, par exemple, la surface accordée à chaque article et la position de la rubrique. Mais pour la recherche que j'ai mentionnée ici, elle a été faite uniquement manuellement. Par contre, je sais qu'à Nice, Mathieu Pérez analyse la mise en page du quotidien avec des outils qu'il développe.
Vous savez si c'est des outils de... Parce que dans les outils de sérialisation, il y a une partie de segmentation du texte hein, qui permet justement des repérages, des blocs. Est-ce que c'est à partir de ces outils-là que c'est fait ou...
Alors, en tout cas, c'est la méthode que nous, on a adoptée maintenant. Mais pour PHPress, donc, qui est le logiciel de Mathieu Pérez, je ne pourrais pas vous répondre... ça repose nécessairement sur une segmentation, mais je ne sais pas si elle vient du logiciel d'OCR ou d'une propre interface qu'il va créer.